Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est Libre. La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft, une association UTCN qui s'est donnée pour mission de promouvoir un internet plus libre, plus éthique et plus inclusif, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui sensibilise les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, une émission qui nous tenait à cœur puisqu'elle parle de jeux vidéo et de jeux vidéo évidemment libre. Pour ce faire, on a le plaisir de recevoir Stanislas Donsini de 0AD. Salut Stanislas.
Bonjour.
Et pour nous accompagner pendant l'émission, je suis avec Rémi et Romain. Salut à vous deux.
Coucou. Salut.
Romain, tu as été le préparateur de cette émission. C'est donc exactement à toi que revient le plaisir de faire cette interview. Et donc je te laisse y aller.
D'accord. Donc bonjour Stanislas. Donc déjà, qui es-tu et sur quel projet travailles-tu?
Alors bonjour, moi je m'appelle Stan, donc je travaille pour un groupe de bénévoles qui s'appelle Willfire Games sur un projet qui s'appelle 0AD. Donc ça fait 9 ans que je travaille sur ce projet et maintenant 3 en tant que membre officiel. J'ai un rôle un peu transverse, je suis officiellement artiste 3D mais il m'arrive d'écrire du code et puis de m'occuper des forums, des médias sociaux et d'orienter les nouveaux venus. En fait j'ai un peu un rôle de majordome pour 0AD, je prépare le terrain pour que tout le monde puisse contribuer au mieux et utiliser au maximum ses capacités.
Ok, et chez 0AD, comment tirez-vous profit du logiciel libre dans votre projet?
Alors on utilise du libre sous toute cette forme, hein, pas juste du logiciel libre. Donc notre moteur est fait maison et est un logiciel libre. Mais il est basé sur certaines technologies qui sont d'autres logiciels, donc tels que le moteur Pocket 3D, on utilise une partie de leur code pour gérer nos shaders. On a pas mal de choses qui sont récupérées à gauche à droite, des petits projets libres qu'on a intégrés pour pouvoir faire des fonctionnalités standards. Mm-hmm. Toutes les contributions artistiques du jeu sont sous licence libre, donc des Creative Commons. Donc en général, on est sous CC BY-SA3, donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des crédits fournis pour les gens et qu'on est obligé de redistribuer les assets artistiques sous la même licence. Okay. On prend aussi des licences moins restrictives telles que la CC0. Après, on utilise d'autres logiciels libres plus en extérieur, donc type Mastodon, qui nous permet justement d'être un peu présents sur des médias sociaux libres. On utilise aussi nos médias sociaux propriétaires pour avoir une plus grande visibilité, mais on aimerait bien justement s'étendre un peu sur le côté du libre, puisque c'est un peu notre audience principale et puis les personnes qui pourraient le plus contribuer. Du côté du code, on a aussi une plateforme qui s'appelle Fabricator, qui est un logiciel libre et qui nous permet justement de gérer les contributions externes des nouveaux utilisateurs.
D'accord. Et quelle est la taille de votre équipe et quels sont les domaines de compétences qui sont déjà représentés et quels sont les domaines de compétences que vous recherchez?
Alors, notre équipe, elle est constituée de à peu près 30 membres, dont l'activité varie en fonction du temps. Hein. C'est du logiciel libre, donc on est tous bénévoles. Il y a à peu près 16 nationalités représentées dans ces 30 équipes. Il y a des artistes, il y a des programmeurs, il y a des traducteurs, il y a en fait un peu tout. Il y a même des historiens. Donc, en fait, on est vraiment une équipe assez diverse. Chaque personne a des compétences complètement différentes. Ça nous permet justement de pouvoir couvrir tous les sujets dont on a besoin de s'occuper.
D'accord. Et donc le jeu 0AD a été en partie financé par une campagne de financement participatif et de plus en plus de jeux indépendants utilisent ce type de financement pour se lancer. Donc est-ce que vous pensez que ce fonctionnement est viable pour le développement de futurs jeux libres?
Alors oui, en fait, comme l'a rappelé un de mes membres de l'équipe récemment, tous les projets open source ont plus ou moins un système de dons, et en fait, tous sont sous financement participatif. Donc dire que les logiciels libres et les jeux ne peuvent pas être financés, ça serait mentir directement, justement, puisque tous les financements sont basés là-dessus. Après, il y a une différence entre financement faible, entre guillemets, avec, une personne qui donne 5 euros de manière aléatoire, et puis un grand financement participatif, comme ça a été le cas en 2015 pour 0AD. Mm-hmm. Ce genre de financement, par contre, c'est à double tranchant. En fait, souvent, on attend énormément de ces financements-là. C'est ce qui s'est passé pour 0AD. On demandait à peu près 160 000 euros sur la plateforme Indiegogo. Mm-hmm. On en a reçu 40 000. Et du coup, ça a créé une énorme déception parmi justement les membres de l'équipe à l'époque, parce que ils s'attendaient à pouvoir financer entièrement le jeu et ils se sont retrouvés avec assez d'argent juste pour pouvoir faire durer le projet, mais sans vraiment pouvoir porter des grands projets qu'ils avaient en tête. Donc il faut vraiment avoir des objectifs bien définis et peut-être les revoir à la baisse, entre guillemets, en disant si vous nous donnez tant d'argent, il va être investi dans tel projet. Donc je sais pas, par exemple, vous dites on veut améliorer notre moteur, il faudrait qu'on supporte telle ou telle technologie. Donc si vous nous donnez X argent, on va pouvoir payer quelqu'un pendant 4 heures pour pouvoir travailler là-dessus, etc. Et il faut aussi, et c'est très important, une communication solide. C'est un des problèmes sur les projets open source, c'est beaucoup de programmeurs, beaucoup de gens qui sont habitués à travailler, entre guillemets, assis dans une chaise et cachés du monde de l'extérieur. Et donc du coup, il y a vraiment un problème de communication. Et là, c'est un peu aussi le but de cette interview, là, de pouvoir parler de 0AD et de partager avec un maximum de personnes. Parce que du coup, ça nous offre de la visibilité et ensuite, ça permet aux gens qui auraient voulu contribuer de au moins savoir que ce type de projet existe.
D'accord. Ok, donc si tu as fini, on va passer à la partie échange.
Alors j'ai juste une petite question pour toi Stan avant.
Ouais.
On a parlé du coup du projet 0AD, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément le projet, est-ce que tu peux présenter un petit peu le jeu, nous dire ce que c'est ?
Ok, alors donc 0AD c'est un jeu de stratégie en temps réel. Donc le but c'est de construire une civilisation en fait. Donc on commence la partie avec un bâtiment principal, on recrute des unités et ensuite on s'étend et le but c'est d'avoir la suprématie sur des cartes qui ont été faites soit par l'éditeur de cartes, soit générées procéduralement avec du code. Donc si vous voulez un exemple un peu pour comparer, vous pouvez regarder Age of Empires de Microsoft. Donc voilà, encore un jeu propriétaire et c'est à peu près un équivalent open source avec ses différences aussi puisque tous les jeux ne se ressemblent pas. À savoir aussi que 0AD donc est basé sur un moteur qui s'appelle Pyrogenesis. Qui est donc en fait le moteur qui fait tourner le jeu et que il est totalement possible de créer une variété infinie de jeux de stratégie grâce à ce moteur là.
Ok
super, okay. Merci.
Il y a plein de choses super intéressantes qui ont été dites pendant l'interview, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais même notamment sur le financement participatif, ce que tu disais, c'est effectivement, ça s'est vu dans beaucoup d'autres projets libres. On peut penser aussi à Framasoft qui, lors de ses dernières campagnes de financement participatif, que ce soit pour Peertube ou pour Mobilizon, justement, avait différents paliers, expliquait bien qu'à ce palier, on pourrait embaucher un ou une graphiste pendant tant d'heures de travail. Enfin, ouais, y a pas mal de choses intéressantes à propos des modèles de financement. Du coup, je vous propose de passer à l'échange. Mm-hmm. Donc Stan, t'es le bienvenu pour rester avec nous. Et puis n'hésite pas à intervenir dès que tu ne souhaites. Donc du coup, Romain, on a parlé de jeux vidéo libres. Mm-hmm. On va revenir un petit peu à la base comme d'habitude en demandant une question un peu naïve. Mais qu'est-ce que c'est finalement qu'un jeu vidéo ? De quoi est composée l'œuvre d'un jeu vidéo ?
Donc lorsqu'on pense aux jeux vidéo, on pense à un logiciel avec une interface graphique proposant un contenu ludique à l'utilisateur. Mais il a existé avant d'autres types de jeux vidéo, avant d'avoir les jeux vidéo qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pourquoi Wikipédia définit le jeu vidéo comme un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant une interaction humaine ludique et générant en retour un visuel sur un dispositif vidéo. J'ai perdu le fil de mon truc. Le joueur effectue des actions via un périphérique, donc qui peut être un clavier, une souris, une manette ou un dispositif un peu plus original. On peut penser au volant, au pédalier, voilà. Dans un univers virtuel, donc il va faire des actions dans un univers virtuel et même aujourd'hui avec certains jeux dans un univers augmenté, donc par-dessus la réalité. On peut par exemple penser à un des premiers jeux vidéo, donc Tennis for Two en 1958. Ça se jouait via de petites manettes sur un oscilloscope. Mais les jeux vidéo modernes sont bien des logiciels composés d'une partie de calcul qui s'occupe de gérer les personnages, environnement et de faire des images à l'écran. Donc il y a le moteur et le code propre aux jeux vidéo. Et à côté, il y a aussi une partie multimédia, donc des textures, des musiques, des modèles 3D, une interface. C'est un logiciel de divertissement qui peut s'exécuter sur plusieurs plateformes. Donc on verra un peu plus tard des plateformes privatrices et des plateformes libres. Donc on a la Xbox, la PlayStation, Recalbox, SteamOS ou des arcades par exemple.
Bah, merci beaucoup Romain. Du coup là de ce que tu nous décris, c'est un jeu vidéo, c'est quand même un assemblage de plein de choses assez...
Oui, c'est très très complexe.
Complexe effectivement, parce que nous par exemple on a fait une émission sur la culture libre, donc là c'est plus pour la partie multimédia, sur les logiciels libres, donc là on peut passer un petit peu au code. T'as aussi parlé de matériel libre, donc là on a tout un ensemble de trucs. Du coup Rémi, c'est quoi le statut juridique du jeu vidéo en France notamment, en tant qu'œuvre justement très complexe?
Justement, ça n'a pas toujours été très simple. Pendant très longtemps, il y avait une grosse zone grise où on ne savait pas trop. Est-ce que c'était le jeu? Est-ce que c'était la console? Est-ce que c'était un ensemble? Est-ce qu'on pouvait séparer? Machin. Ça a mis pas mal de temps avant de se mettre en place. Et c'est en 2009, du coup, qu'un arrêté de jurisprudence dit que le jeu vidéo est considéré comme une œuvre complexe. Donc une œuvre complexe, ça implique que chaque élément, donc le logiciel, la musique, la vidéo, les images, le texte, etc., garde son régime de protection. Donc le logiciel sera régi par le droit du logiciel, les images seront régies par le droit d'auteur des images, etc. Ça implique pas mal de choses, notamment le fait que du coup on peut vraiment séparer juridiquement aussi le jeu vidéo dans tous ses aspects. Ce qui fait qu'on a des jeux vidéo qui sont totalement libres, comme 0AD par exemple, où aussi bien le code que les ressources, que les musiques, tout ça est libre. On a des jeux vidéo où le moteur est libre, mais pas le contenu. Donc là, ça va être par exemple si je prends le moteur de 0AD, mais que je fais moi des jolis dessins qui sont encore plus beaux que ceux de 0AD, mais que par contre je les libère pas, vous êtes obligé d'acheter en tout cas ce contenu-là. On a l'inverse du coup, où le contenu est libre, où les visuels, les musiques, l'histoire va être libre, mais où le moteur ne va pas être libre. Et enfin, bien sûr, des jeux privateurs, donc des jeux dont on a l'habitude, qu'on voit dans les pubs notamment. Par exemple, un petit exemple de jeu que je peux donner où le moteur est libre mais pas le contenu, c'est Star Wars Jedi Academy, Jedi Knight. Lorsque LucasArts a été racheté par Disney, le studio Raven qui développait du coup ce jeu a dit non, on veut pas faire ça, du coup on va libérer le code. Alors au final ils ont été obligés de le reprivatiser à un moment, mais du coup à un moment on avait le code en lui-même qui était libre, donc chacun pouvait récupérer le code du jeu, mais on ne pouvait pas se servir des visuels, des images, de la musique, de l'histoire. Donc ce qui fait que légalement on pouvait pas en faire grand chose en fait de ce code. Mais ça a permis notamment de pouvoir le compiler sous Linux. Donc ce jeu qui à la base n'était disponible que sous Windows, là on peut y jouer sous Linux depuis. Et il suffit juste de récupérer tous les visuels et les musiques. Ça, donc si on a payé le jeu sous Windows, on peut les récupérer pour jouer sous Linux. Donc le fait d'avoir vraiment cette séparation-là, ça permet que même si on ne peut pas tout libérer pour différentes raisons, on peut quand même libérer un petit peu. Et plus on libère, plus ça permet de faire vivre le jeu.
Ok, donc on a vu que le jeu pouvait être... en partie ou complètement libre. Et du coup, Quentin, pourquoi le jeu vidéo libre est important?
Déjà, la première raison, c'est que le libre, c'est génial. Je pense que on est tous à peu près d'accord là-dessus. évidemment, on va redire quelque chose assez général qu'on a dit, qui s'applique à l'ensemble de ce qu'on appelle libre. Donc, bien sûr, la décentralisation, qui est très liée en général au libre, puisque le fait de libérer du code ou des médias permet à chacun de s'y approprier. On l'a vu, donc en effet, les gros studios, les jeux AAA, comme on dit, assez peu de diversité, et le code ne peut pas être récupéré, donc réexploité et... dérivés. On a évidemment des problématiques de protection de la vie privée, donc on peut penser aux plateformes où on sait pas trop ce qui se passe avec nos données, les sauvegardes sont centralisées sur des serveurs dans le cloud, etc. Au final, c'est des choses qui en disent beaucoup sur nous, sur nos habitudes. Le libre apporte un soutien à l'innovation, donc n'importe qui est libre de donner son avis, de soumettre une idée, de contribuer, donc on a toujours cette idée de diversité. Et biais aussi, un autre enjeu qu'on a déjà abordé au niveau de la culture libre, donc c'est la diffusion de l'art. Le jeu vidéo étant de plus en plus reconnu comme un art à part entière, le fait de le diffuser sur les sources libres permet de le rendre accessible à toutes et à tous, et de le faire connaître en tant que vraiment médium artistique. On peut penser à d'autres raisons qui, à mon sens, sont plus spécifiques aux jeux vidéo, donc par exemple le fait de porter un jeu dans d'autres langues. Alors là, j'ai peur de faire une bêtise, alors je vous demande, je sais pas comment, j'ai jamais prononcé le nom de ce jeu, c'est Phoenix Wright. Right?
Je sais pas comment. Je sais pas du tout.
J'ai aucune idée de quoi tu parles, je n'ai pas le truc sous les yeux.
Bah, désolé, le jeu d'où vient le fameux meme Objection et tout là.
Je ne saurais pas le prononcer.
Stan, tu sais toi comment ça se prononce?
Non, j'avoue que je ne le connaissais pas avant que tu en parles.
Eh bien écoutez, peut-être que je fais une faute de prononciation, mais en tout cas, moi, j'avais eu à plancher sur un truc du genre, donc bon, peu importe. Donc en tout cas, toute la série des jeux Phoenix Wright, il y a certains opus qui sont restés en langue japonaise par manque de rentabilité, tout simplement, ou parce que le marché européen était considéré comme plus frileux. Et donc au final, on se retrouve avec des jeux qui, légalement, dans une zone grise, peuvent pas vraiment être traduits pour d'autres langues, et donc il y a une partie du monde qui peut pas en profiter, parce que le jeu n'est pas disponible sous licence libre. Alors que pourtant, le fait que une autre partie du monde en profite, bah, en fait, enlèverait pas de rentabilité à l'éditeur, puisqu'il n'avait de toute façon pas prévu de le distribuer. Donc là, dans ce cas-là, il y a des énormes communautés qui se constituent, qui font de la décompilation, du rétro-engineering sur les fichiers du jeu pour faire de la traduction, mais c'est un travail colossal qui ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des jeux. Bon, on peut aussi penser à d'autres exemples, par exemple des jeux anciens qui sont plus maintenus, où il y a encore des bugs, où on retrouve, bah, pareil, des groupes d'adeptes hein, sur Internet qui se démènent pour corriger les bugs, pour améliorer les textures, pour ajouter des éléments de scénario. Or, dès qu'un jeu n'est plus rentable, et ben les éditeurs l'abandonnent dans un coin et toute une communauté avec. Et pourtant, ce jeu a en général été acheté par les joueurs, donc on peut y voir une certaine forme d'injustice, finalement. Enfin, on peut y voir l'analogie avec les fanfictions, en fait, pour les livres et les films. Donc, libérer le code d'un jeu donne le droit à la communauté de créer beaucoup d'œuvres dérivées et de l'enrichir considérablement. Et donc au final, c'est pas du tout une perte pour l'éditeur. Et justement, les éditeurs, ils l'ont bien compris, parce qu'il est maintenant assez commun de proposer un système aux joueurs pour modder les jeux. C'est-à-dire un système qui permet de rajouter des personnages, des objets, de changer des interactions, de changer des textures, de rajouter des nouveaux modes de jeu. Mais ça, c'est une situation très asymétrique. Parce que ce qui se passe, c'est que l'éditeur choisit ce qui peut être modifié dans son jeu et ce qui peut ne pas l'être. Il en retire tous les bénéfices par le travail bénévole des joueurs et par l'attrait supplémentaire qui est suscité par ses modes, parce qu'il est super présent, en fait. Et surtout, il garde le secret sur le cœur du jeu et sur ses droits d'exploitation. Donc, il est capable d'en faire absolument ce qu'il veut. Et je vais vous lire une petite citation que j'ai trouvée sur une des revues de l'INA. Enfin, une grande citation, mais qui explique bien le problème avec justement les jeux non libres. Pourquoi est-ce que le jeu libre serait important? Donc début de citation. « Les modes étendent la durée de vie d'un jeu en proposant des contenus supplémentaires et en améliorant les graphismes, proposent de nouvelles interfaces et corrigent même parfois les bugs plus vite que ne le fait un développeur. Il est coutumier pour un grand nombre d'éditeurs de presser la sortie de leur jeu afin d'occuper l'espace de vente représenté par les fêtes de fin d'année et d'anticiper la clôture de l'année fiscale. » Avec parfois comme résultat des jeux non finis, gangrénés de bugs en tout genre et amputés d'une partie de leur contenu. C'est alors que les modeurs entrent en scène et proposent à la sortie du jeu des patchs correctifs non officiels, offrant une expérience de jeu nettement améliorée. Donc cette citation vient de la revue des médias de l'INA. Et donc on comprend bien qu'on est dans une situation où les joueurs et les modeurs enrichissent l'éditeur gratuitement, sans qu'il n'en retire quelque chose davantage, et c'est à mon sens un des points fondamentaux qui fait que c'est très important de penser libre dans le jeu vidéo.
Super, merci Quentin. Il me semble, Stan, que tu avais un petit truc à dire sur le rétro-engineering.
Ouais, alors en fait, donc pas mal de développeurs, enfin de projets d'éditeurs de jeux type Ubisoft, Nintendo, etc., ils ont enfin dans leur les licences, enfin les end user license agreements, là les ELA, des clauses spécifiques pour les utilisateurs qui techniquement les empêchent de faire ce genre de modifications. On peut penser par exemple à GTA, qui est un des jeux avec le plus de modes qui existent. Enfin, il y a beaucoup de modes pour ce jeu-là, et où les développeurs font absolument tout ce qui est possible pour empêcher les modeurs de faire leur boulot en fait. Il y a d'autres jeux, type alors 0AD, parce que par nature il est déjà modable puisque en fait il est open source, mais aussi comme un jeu qui s'appelle Mountain Blade, où ça même était au point que les mods sont devenus des DLC pour le jeu. Mais voilà, en fait souvent il y a pas mal de, enfin ils essayent souvent de limiter au maximum ce qu'on peut faire avec leur environnement. Il me semble que Nintendo ou Disney ont tendance à vite taper sur tout ce qui ressemble à des mods de près ou de loin parce que ils considèrent que c'est leur propriété intellectuelle et qu'ils ont aucune, enfin que les gens n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit avec.
Tu parlais de passer les mods en DLC, du coup les rendre payants.
Ouais, c'est ça.
L'argent, il va à qui? Du coup, il va bien au modeur ou il va à l'éditeur?
Alors,
qui n'a rien fait?
Ça dépend. En général, c'est un peu des deux. Ils les embauchent. En fait, là, en plus, dans Mountain Blade, ce qui s'est passé, c'est qu'une grande partie des modeurs a été recrutée pour la fabrication du deuxième jeu. Mais oui, en général, soit le jeu se fait carrément de l'argent, mais ils doivent probablement en verser des droits, soit c'est rarement juste pour les modeurs, en fait, puisque de toute façon, ils sont plus ou moins, entre guillemets, dans l'illégalité quand ils commencent à modifier des choses, puisque c'est dans les trucs d'agrément qu'ils se sont engagés à pas faire, en fait.
Ça, on a vraiment un truc complètement absurde, hein. Ça fait penser au système propriétaire avec des trous de sécurité béants, où en théorie, c'est illégal de tester la sécurité, mais... Ouais. Quand les éditeurs de logiciels ou de systèmes se rendent compte qu'en fait la personne peut leur rendre service, et elle les embauche et sinon elle porte plainte. Enfin, c'est vraiment une belle blague, quoi. Mais c'est hyper hyper commun, les jeux super buggés qui sont comme le disait la citation, où on se retrouve avec les joueurs qui corrigent le truc à la sortie du jeu gratos parce qu'ils ont envie d'y jouer, quoi. Normal.
En parlant des jeux qui ont été traduits et puis que c'est pas autorisé, il me semblait qu'il y avait une affaire qui était passée justement il y a quelques temps, où un éditeur avait fait interdire complètement des ROM traduites d'un jeu vidéo. Alors, je ne saurais pas ressortir le nom, mais il me semblait que...
Ouais, alors qu'il le vendait même pas, quoi. C'est juste sur le principe, cette espèce de peur de que le jeu nous échappe.
Alors que justement, c'est l'effet de la pub, quoi.
Bah ouais, carrément. Tu voulais dire un truc, Stan?
Ouais, le cas le plus absurde que je connais, c'était c'est pas mal de jeux sont sous DRM, donc des systèmes qui permettent justement d'empêcher leur copie et leur reproduction. Et on y a un éditeur, alors je me souviens plus du nom, qui avait carrément dans une de ses mises à jour patché le jeu avec à une version no CD, en fait. Et donc en gros, quand on patchait le jeu, on se retrouvait avec une version qui avait plus besoin de DRM, en fait, parce que ils avaient plus l'exécutable et qu'ils avaient dû le modifier rapidement pour que ça fonctionne. Il y a des trucs comme ça
pas mal,
assez absurdes.
D'ailleurs, juste, je viens d'y penser, mais par rapport au fait, je disais, les mods peuvent considérablement enrichir un jeu. Il y a quand même deux exemples super emblématiques. C'est Dota 2, qui aujourd'hui est un des trucs les plus joués en e-sport et tout. C'était un mode de Warcraft 3, hein, je crois. Counter-Strike, qui était un mode d'Half-Life. Si les éditeurs à ce moment-là avaient été super frileux et avaient dit non, c'est mort, les gars, vous modez pas notre jeu, en fait, il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. Donc, encore une fois, je pense que les éditeurs, ils laissent faire, hein, tant que ça les arrange, mais ça serait bien que les gens aient le droit de le faire et qu'ils ne soient pas toujours sous la pression de se dire si ça ne plaît pas à l'éditeur, je vais en prison, et sinon, peut-être qu'ils me filent 2-3 thunes, quoi.
Après, dans les cas que tu as cités, il me semble que c'était
voulu. Le seul cas où ils pourraient éventuellement vouloir restreindre ce genre de choses, c'est quand les contenus sont vraiment détournés d'une manière qui ne leur rend pas, entre guillemets, hommage, en fait.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Mais sinon, pour le reste, il y a vraiment pas. Enfin, c'est vraiment dommage, en fait, parce que, comme on disait, un jeu, enfin, plus ça va, plus les jeux ont une durée de vie courte quand c'est pas des jeux massivement multijoueurs. Et là, en fait, juste la possibilité d'avoir des mods, ça rajoute des centaines, voire des milliers d'heures en plus. Alors après, forcément, dans des jeux complètement solo, ça arrange pas l'éditeur, parce que ça veut dire que les personnes continuent à jouer avec le même jeu alors qu'ils en ont sorti 5 depuis et qu'ils les achètent pas.
Mais
pour l'utilisateur final, c'est quand même pas mal, quoi.
En vrai, on devrait mettre des logos partout du style « le privateur tue », parce que franchement, c'est vrai qu'on se rend compte que le libre, ça prolonge la durée de vie partout, que ce soit contre l'obsolescence programmée avec le matériel libre, les Linux qu'on installe sur les vieilles bécanes, les jeux vidéo libres, enfin à peu près tout, quoi. C'est sûr que c'est pas dans la logique, pardonnez-moi, capitalistique et de croissance, en fait, d'avoir des choses qui durent des années. Ok,
ouais,
bon, du
après,
coup,
les...
ouais, pardon.
Ouais. les j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà.
Ah désolé, c'est ma faute. Si ça te revient, n'hésite pas. Bon, après, du coup, cette petite digression, parce qu'on a dit que les jeux vidéo libres, c'était génial, mais est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a ailleurs que 0AD? Du coup, bah, voilà, quel projet existe au niveau du jeu vidéo libre qui nous fait un petit tour d'horizon?
Ouais, du coup, il y a plein de projets. Donc, il y a des jeux, il y a des contenus, il y a des moteurs, il y a des plateformes, des émulateurs, des extensions, donc les mods, tout ça. Par exemple, au niveau des jeux vidéo, bon, on a forcément 0AD dont on a parlé, qui est excellent d'ailleurs. J'ai fait essayer à mon frère il y a pas longtemps et il a adoré, donc voilà.
Merci.
Et c'est le jeu que j'ai mis le moins de temps à installer sur mon ordinateur.
Et il tourne super bien sur l'ancienne configuration, donc voilà, tester, voilà. On a aussi, alors dans ce que je connais, par exemple Minetest. Donc, si vous connaissez un peu Minecraft, c'est quelque chose qui ressemble, mais qui va encore plus loin, puisqu'il y a carrément la plateforme de modding qui est inclus dedans. Donc, c'est un monde composé de voxels où vous allez pouvoir faire votre petite aventure, faire du créatif, plein de choses. Donc, après, il y a SuperTux, SuperTux Kart, qui sont des clones des jeux Nintendo, donc Super Mario Bros et Mario Kart. Wildlands, qui me semble est un, comme 0AD, real-time strategy, donc voilà. Après, il y a d'autres jeux que je ne connais pas, donc Battle for Westnoff, tout ça, je ne connais pas, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, si quelqu'un en sait un peu plus sur ces jeux-là. Sinon, on va passer au reste. hop, encore une fois, j'ai mes boutons qui ne marchent pas bien. Au niveau des moteurs, donc on a un moteur par exemple assez récent comme Godot, qui permet de créer assez facilement ces jeux vidéo. Donc il y a une interface graphique, on peut créer ces jeux vidéo. On a Pyrogenesis, donc qui est le moteur de 0AD. On a Ogre, on a par exemple Blender, qui permet aussi de créer des jeux vidéo. Et apparemment, ça a été retiré dans la version 2.8. Donc voilà.
D'ailleurs, en parlant de Godot, il se trouve que avec les membres de Godot, j'organise une dev room au FOSDEM en 2020 à Bruxelles. Et donc du coup, l'idée, c'est qu'on a été voir pas mal de ces projets-là pour leur demander s'ils voulaient venir et faire des interventions type présentation là-bas. Et bon, on a récupéré quelques-uns. Il va y avoir 0AD entre autres, mais il y aura d'autres jeux qui viendront présenter les galères qu'ils ont eues et comment ils ont réglé leurs problèmes avec tous les moteurs libres. Donc il y aura pas mal de choses. Il y a le grand patron de Blender qui va venir aussi, Tan Rosendahl. Donc voilà. Donc si vous êtes dans le coin de Bruxelles autour du début février, donc le 1er et le 2 normalement, n'hésitez pas à passer nous voir et à dire bonjour.
Ça fait 2 semaines que je suis en train de me motiver à y aller. Et je pense que je vais peut-être passer faire un tour.
Ok.
Voilà.
Aussi au niveau du contenu, donc on a aussi pas mal de contenu qui peut être utilisé pour du jeu vidéo libre, donc les musiques libres en général, on en passe. Dans chacune de nos émissions, donc vous avez déjà plein d'exemples, mais il en existe plein d'autres. Il y a aussi de nombreuses textures de modèles 3D, de sprites distribués sous licence libre sur Internet. Donc par exemple, un site qui est pas mal, où il y a un gros catalogue, c'est opengameart.org. On a aussi des logiciels d'aide à la création, donc on a déjà parlé un peu de Blender qui permet de faire des modèles 3D. On a Tiled qui permet de créer des maps pour des jeux, donc des jeux en 2D. On a Krita qui est avec GIMP qui permettent de faire des textures 2D, donc voilà, c'est cool. On a des plateformes qui permettent d'exécuter du jeu vidéo libre, donc on a RetroArch qui rassemble plusieurs émulateurs d'anciennes consoles, donc des consoles rétro, des consoles plein de consoles. On a Recalbox qui fait un peu la même chose, qui s'installe par exemple assez bien sur le Raspberry Pi et qui permet de transformer sa télé en une console sur laquelle on peut faire de l'émulation. On a Lutris sur Linux, donc pour ceux qui veulent faire du gaming sur Linux, c'est pas mal, ça permet d'installer assez facilement plein de jeux, dont des jeux Windows avec une aide à l'installation avec Wine. On a des émulateurs comme MAME qui permet d'émuler des arcades.
Ouais. J'y pense là, du coup, il manque Playit, qui est une plateforme qui permet de jouer avec des jeux privateurs sous Linux, donc qui permet de les installer en fait et de justement de pouvoir jouer et de partager ces jeux-là en fait sur sur des plateformes libres.
C'est un peu à la Play on Linux ou ça n'a rien à voir?
C'est légèrement différent parce que ça permet juste de les installer, il me semble, en fait. Alors attendez, faut que je retrouve le lien. Mais enfin, donc c'est aussi des gens qu'on a l'occasion de rencontrer aux events libres. Donc du coup, c'est une collection de scripts qui, à partir de CD, DVD, installateurs pour Windows ou Linux, archives, construites sans besoin d'intervention de votre part, des paquets de dev prêts à être installés sur votre Debian ou n'importe quel dérivé basé sur APT des packages, comme Ubuntu ou Linux.
Ok, génial,
mal, c'est super.
Moi, je voulais juste rajouter un micro-truc. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Kaganat, Stan ?
Ouais, je les connais bien, ouais, ils sont sympas.
Bon, voilà, juste pour leur faire un petit coup de pub aussi, nous, on avait rencontré Squeak qui était venu nous parler de Monnaie Libre à Compiègne et qui nous avait présenté le projet. Donc voilà, l'idée, c'est de créer un MMORPG le plus libre possible. Et bon, là, je lis ce qu'il y a sur le site. Libre dans les possibilités qu'il donne aux joueurs, libre aussi dans son code, dans ses ressources graphiques, dans son univers, son histoire, les outils pour le modifier et le faire évoluer. Et c'est aussi une expérience sociale et économique, explorant des concepts peu exploités dans les jeux vidéo. Les participants de Kaganet font de pareil qu'un jeu entièrement accessible puisse être aussi générateur d'une économie positive et d'échanges humains plus que constructifs, basé non pas sur la contrainte et le secret, mais sur le partage et la volonté. Donc bon, toutes les bonnes valeurs du libre, quoi.
Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce projet Kaganat, c'est surtout Kanat, donc l'univers dans lequel est ce jeu. Et du coup, en fait, bah, ils sont vraiment en train de créer un univers avec tout ce qui va dedans, toute la mythologie, toute l'histoire, tous les langages. Et à côté de ça, ils font énormément du coup, de musique, de visuel et tout ça. Et donc, c'est plus qu'un projet de vidéo, c'est vraiment un projet d'univers libre. Et du coup, je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir créer tout ce qu'on veut, quoi.
Ouais, c'est un très bon exemple aussi d'offrir la possibilité à des gens qui sont non techniques de faire, de faire des choses. Tout le monde peut inventer un univers. Ils font beaucoup d'ateliers comme ça, d'ailleurs, sur les événements libres tels que le Capitole ou les IDLL. Et c'est de montrer, ouais, comme ça que c'est pas parce que ça a l'air technique et compliqué que tout le monde ne peut pas vraiment le faire, en fait. Alors, ils avancent doucement, mais s'il y a des gens qui écoutent cette émission et qui ont besoin de, enfin, qui veulent les aider, ils cherchent pas mal de gens, donc n'hésitez pas à passer sur XMPP et leur dire bonjour, ils seront contents de vous accueillir, je pense.
Ouais, tout de suite, les grands mots.
On peut leur trouver sur kaganat.net, KHAGANAT.net.
Bah merci Rémi, mais en tout cas ouais, j'ai l'impression que depuis toujours, même dans les jeux de rôle, on retrouve en fait un peu les valeurs du libre, et là le fait de les avoir transposées avec en plus le jeu vidéo, c'est tout à fait naturel et c'est super plaisant. Bon bah du coup le jeu vidéo libre c'est génial, il faut tous en faire, c'est parfait, il y a des papillons dans les campagnes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des obstacles avant d'arriver à cette un peu...
Il y en a toujours. Bah, parmi les premiers obstacles, il y a le fait que pour faire un gros jeu, souvent, il faut du gros pognon. Et que avoir beaucoup d'argent, on sait très bien que dans les projets libres, c'est assez compliqué. Du coup, bah, ça, ouais, c'est un premier obstacle. Surtout que quand eux font des beaux jeux et beaucoup de communication dessus, de la publicité, etc., on entend plus parler de leur jeu. Donc on a plus tendance à jouer à leur jeu à eux, et du coup quand on arrive avec nos jeux libres qui sont peut-être plus intéressants mais qui sont un petit peu moins beaux, un peu moins fignolés, je sais pas, ça donne moins envie potentiellement à un joueur lambda qui n'est pas du tout intéressé par ça. Ensuite il y a le problème de la plateforme aussi. Bien souvent, alors c'était le cas avant, ça allait un peu moins mais ça continue à l'être quand même pas mal, les jeux sont publiés pour une plateforme. Par exemple les jeux de Nintendo sont uniquement sur les plateformes de Nintendo. Et la plupart des jeux qu'on a sur les consoles comme PlayStation ou Xbox, ils sont disponibles uniquement sur PlayStation, Xbox et PC à la limite, les trois. Mais c'est très rare qu'on les voit ailleurs. Et notamment sur des machines Linux, sur des machines macOS, souvent ils marchent pas très bien. Donc ça c'est dû à plusieurs raisons. Sur Linux, si ça marche pas très bien, c'est déjà parce que les développeurs s'en fichent, tout simplement. Et aussi parce qu'il y a un problème des drivers. Donc les drivers, c'est ceux qui permettent les bouts de logiciels qui permettent d'interagir avec le matériel. Et souvent, les drivers pour Windows sont plus optimisés pour le jeu vidéo que ceux pour Linux, par exemple, où les jeux sont plus optimisés pour travailler avec les drivers de Windows. Donc ça, c'est des genres de choses qui font que c'est plus compliqué de faire des jeux pour la communauté libriste. Ensuite, il y a aussi le problème du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont été abandonnés, qu'on aurait envie de reprendre, mais on n'a pas le droit de le faire pour des raisons de droit d'auteur dont on a déjà parlé plusieurs fois. Notamment, bah, si on veut reprendre un mode, on a déjà vu les modes, ça peut être compliqué. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur les obstacles. Je sais pas si vous en voyez d'autres, Stan, notamment, si tu veux dire un petit truc.
Dans la même lignée, en fait, il faut beaucoup de budget, etc. Mais il y a pas mal de ressources qui sont en apparence, qu'on peut acheter. Donc, par exemple, sur tous les stores Unity, etc., tout ce qui est graphique, qui est assez difficile à trouver en libre, en fait, du CC0 ou du CCBY, c'est assez compliqué. Et il y a beaucoup de problèmes de licence, notamment justement pour la réutilisation. Est-ce que quand vous achetez un asset graphique, vous avez le droit de le redistribuer dans un projet libre, ou est-ce qu'il faut absolument rajouter 50 clauses dans le fichier de licence en expliquant que celui-là vous pouvez, celui-là vous pouvez pas, etc. Et c'est assez compliqué justement d'avoir des ressources de qualité, en fait, puisque du coup on peut pas vraiment tout le temps les réutiliser. Et en fait, on se retrouve, la raison pour laquelle, entre guillemets, les jeux sont moches, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut tout refaire de zéro pour être sûr de pas enfreindre des lois. Et d'ailleurs, ces lois sont assez complexes, hein. Par exemple, en fait, techniquement, en France, c'est pas parce que vous distribuez une œuvre graphique sous licence libre que vous perdez vos droits d'auteur dessus. Du coup, dans l'absolu, quelqu'un pourrait dire, je le mets sous licence libre, et 2 mois après faire, c'est à moi, et vous les avez tous utilisés de manière illégale, et donc je vais tous vous poursuivre en justice, quoi.
Ouais, on vous renvoie à l'émission qu'on avait faite sur les licences libres, où effectivement la CC0, par exemple, est pas... Enfin, si elle est compatible aujourd'hui avec le droit français, mais il y a des droits auxquels on peut pas renoncer, donc attention quand même à bien respecter le droit aussi au-delà des licences. On a déjà parlé un petit peu de certaines choses qui étaient possibles pour financer le jeu vidéo libre, hein. Avec Zero AD, on a vu qu'il y avait un financement participatif. De manière générale, Romain, comment est-ce qu'on peut soutenir le jeu vidéo libre?
Donc oui, effectivement, il y a plein de moyens de soutenir le jeu vidéo vos jeux vidéo libres favoris. Donc comme tout projet libre, il y a plusieurs moyens de les soutenir. Donc déjà, la méthode la plus simple, la plus courante, c'est le don d'argent. Donc il ne faut pas oublier que, comme pour tout projet, c'est un projet qui a un coût, et que le bénévolat, il ne suffit pas à compenser tout. Ensuite, si vous êtes à l'aise, par exemple, en langue étrangère, ça pourrait être utile de traduire le jeu, parce qu'un jeu, par exemple, qui n'est pas dans la langue maternelle, ça peut être un frein pour certains à l'adoption du jeu, comme pour les logiciels d'ailleurs. Ou alors, par exemple, si vous avez des compétences en art, en 2D, en 3D, en musique, vous pouvez contribuer à vos jeux parce qu'ils ont besoin de vos talents. Si vous êtes en capacité de le faire, c'est pareil, il y a aussi le code. Ou alors créer des extensions, puisqu'un jeu vivant, c'est un jeu où il y a une communauté active derrière. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Donc aussi, comme pour tout logiciel libre, ce qui fait sa force, c'est le partage. Si vous aimez le jeu, vous pouvez en parler à votre entourage et le partager.
Voilà. Merci Romain pour ces paroles sages. Du coup, on arrive à la fin de l'émission. Du coup, juste avant de passer au quiz et à la musique, Stan, on a plus qu'à te remercier vraiment d'être resté avec nous sur tout le long de l'émission et de nous avoir apporté tes lumières.
Je vous en prie, et puis merci à vous de m'avoir proposé cette opportunité, en fait, parce que du coup je suis content, je peux parler de mon jeu, c'est bien de parler de moi.
Et bah, plaisir partagé, du coup on te dit à la prochaine, peut-être au FOSDEM.
Ouais.
Et puis bonne journée à toi, ciao.
Ciao.
Salut Stan.
Alors, le quiz aujourd'hui est un quiz un petit peu juridique, hein, puisque vraiment j'ai l'impression que notre expert juridique Rémi, on continue. Donc, quand je possède une copie légale d'un jeu vidéo privateur, par exemple que je l'ai acheté hein, en France, j'ai le droit de, réponse 1, porter ce jeu sur une autre console sur laquelle il n'est pas disponible. Par exemple, je sais pas, c'est sur PS4, on veut pouvoir y jouer sur Xbox. Corriger des bugs ou des failles de sécurité. C'était la réponse 2. Réponse 3, traduire le jeu. Et réponse 4, créer une extension du jeu ou un mode. Alors on a déjà donner quelques petits éléments de réponse, mais c'est pas si évident que ça. Vous allez devoir, pour patienter, on va écouter la musique Heaven in Your Mouth de In Touch with Robots. Décidément, mon accent n'est pas en valeur dans cette émission. C'est en CC by NCSA et ça a été déniché sur Free Music Archive par Audrey. Bonne écoute! De retour sur La Voix Libre, sur Graphite 94.9, c'était Heaven in Your Mouth de In Touch with Robots. Je sais plus si j'avais précisé que c'était sous CC by NCSA. Alors, on va répondre au quiz. Ça va être une réponse un tout petit peu plus longue que d'habitude, mais on va s'efforcer de la rendre le plus compréhensible possible.
Parce qu'en fait, nous-mêmes, on comprend pas.
La question, c'était de savoir quand on a une copie légale, donc par exemple, quand on a acheté un jeu vidéo privateur en France, est-ce qu'on avait le droit de porter ce jeu sur une autre plateforme, de corriger des bugs ou des failles de sécurité, de traduire le jeu et ou de créer une extension du jeu, c'est-à-dire un mode. Alors là, la réponse rapide, c'est que c'est très compliqué et qu'on manque de jurisprudence pour avoir des certitudes. Alors en fait, un tout petit point qui est assez important, c'est que en France, l'article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle autorise la décompilation, c'est-à-dire le fait d'étudier le code source d'un programme, donc en l'occurrence d'un jeu également, uniquement si cette décompilation permet l'interopérabilité avec un autre logiciel et s'il n'y a pas d'autre choix. Donc typiquement, l'idée ce serait que, est-ce que si j'ai un jeu qui tourne sous une plateforme, par exemple sous Xbox, j'ai le droit de le décompiler, de regarder son fonctionnement, afin de faire en sorte qu'il puisse tourner sur une PS4 ou un PC ou ce genre de choses. Donc en ce sens, on peut se dire que ça peut être légal de porter un jeu sur une autre plateforme si le portage consiste en la création, par exemple, d'un émulateur qui serait capable de faire tourner le jeu. Mais par contre, modifier le jeu lui-même pour qu'il soit capable de tourner sur une autre plateforme, c'est plus discutable. Donc là, on est sur une question de, on a le droit de décompiler un jeu, regarder comment il fonctionne afin de créer une plateforme pour le faire tourner. Mais par contre, modifier le jeu, ça, c'est pas très légal. Donc l'article explique aussi qu'il est possible de modifier un jeu, un programme, afin de corriger des erreurs et de permettre l'utilisation prévue. Donc là, en ce sens, on peut se dire que si un éditeur sort un jeu un peu buggé et qu'on ne peut pas l'utiliser comme prévu, dans le cas de la loi, il est possible de le modifier pour corriger les bugs ou pour regarder pour corriger aussi des failles de sécurité. Au niveau de la traduction, c'est plus compliqué. Je pense que ça nécessiterait l'avis d'un expert juridique. On peut se demander si la traduction relève de l'interopérabilité. Est-ce que là, pour le coup, c'est vraiment des questions instinctivement, on pourrait se dire oui, parce que ça prive une partie de la population mondiale de jouer au jeu, mais c'est une autre question. Et enfin, la création d'extensions de modes, ça dépend si le mode peut être assimilé à une œuvre dérivée, auquel cas c'est interdit par le droit d'auteur, ou bien si on peut le considérer comme une œuvre originale. Donc là encore, souvent les éditeurs donnent un accord tacite aux modeurs, mais qui ne protège pas les modeurs aux yeux de la loi. Donc bon, là, pour juste vous donner ces quelques éléments de réponse, j'ai lu en diagonale des papiers entiers qui traitent du statut juridique du jeu vidéo. Mais vous voyez que c'est putain de compliqué. Et donc, dans tous les cas, le flou juridique autour de ce qu'on peut faire ou non à partir d'un jeu vidéo, c'est dangereux pour les personnes qui voudraient simplement rendre le jeu accessible à un public considéré comme non rentable ou pour donner une seconde vie à un jeu abandonné. Et donc, pour vous, pour finir... je mets une citation. Ouais, Rémi.
Ouais, juste un petit détail. Alors, je sais pas si ça s'applique vraiment ici, mais sur les mesures techniques de protection des œuvres, donc ce qu'on appelle les DRM. Mm-hmm. Pour les DVD, en tout cas, notamment sur les DVD, on a le droit à la copie privée, qui est une exception au droit d'auteur.
Ouais.
Et du coup, en fait, vu que c'est une exception au droit d'auteur, si jamais il y a des mesures de protection de l'œuvre, on n'a pas le droit de briser ces mesures de protection pour joueurs de l'exception. Donc là, dans ce cas-là, voir si c'est vraiment un droit à la décompilation, un droit à tout ça, ou si c'est une exception au droit d'auteur qui fait qu'on peut décompiler.
C'est une exception.
Auquel cas, du coup, s'il y a des mesures techniques de protection de l'œuvre, a priori, on n'a pas le droit de briser ces mesures de protection.
Ça, c'est à voir. J'avoue que j'ai trouvé des références au fait qu'il était possible de décompiler, mais encore une fois, je suis pas juriste. Il y a aussi la copie de sauvegarde qui est légale dans le cas des jeux vidéo. Ouais.
Mais pareil, du coup, s'il y a des DRM.
Ouais.
Enfin, en tout cas, sur le cas du DVD... on a dit que s'il y a des DRM, tu n'as pas le droit de briser les DRM.
Ouais, la nuance, en fait, est dans l'exception et ce n'est pas un droit. Ouais, donc,
exactement. Donc, voilà. Donc vraiment, je ne redis, donc la question se pose.
C'est
et dans tous les cas, personne ne sait vraiment, il n'y a pas de jurisprudence. Donc, finalement, si les éditeurs un jour veulent poursuivre quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne se la fasse mettre à l'envers. Donc je termine par une citation du papier droit d'auteur et jeux vidéo de Jean-Philippe Savoie qui nous dit: les compagnies de développement de jeux vidéo, dès leur arrivée sur le marché, se sont retrouvées confrontées à un système de droit mal adapté à des produits nouveaux, né de l'union inusitée de l'innovation technique et de la créativité artistique. Les jeux vidéo n'ont pas une place bien définie au sein des systèmes de droit d'auteur ou de brevets. Dans un tel domaine en effervescence et en mutation constante, les principaux acteurs attendent rarement que le droit règle les conflits et les mésententes et utilisent plutôt leur liberté contractuelle pour mettre fin aux différends. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que la loi n'est pas bien adaptée aux jeux vidéo et que c'est les éditeurs qui font leur loi. Donc les licences libres et les jeux vidéo sous licence libre règlent l'intégralité de ces problèmes. C'est pourquoi bah, évidemment on encourage on les encourage. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Désolé, c'était peut-être un peu long.
Bon, à part les liens.
C'est bon.
Donc voilà. on mettra les liens sur évidemment le site de l'émission. Rémi, tu nous les rappelles.
Ouais, du coup, quelques dents vite fait, bah il y a play0ad.com du coup pour 0AD. Kaganat.net dont j'ai déjà parlé, mindtest.net, du coup c'est une sorte de Minecraft dont on a parlé aussi tout à l'heure que je vous invite à aller regarder, qui est très intéressante. On a opengameart.org qui est donc dont parlait Romain tout à l'heure aussi, une plateforme où il y a pas mal de contenu libre. Et pour Playit, du coup, le site c'est .play.it, où là, du coup, bah, c'est ce que expliquait Stan tout à l'heure, une plateforme qui permet de porter facilement des jeux sous Linux.
Et ben, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radio.picassoft.net. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Salut!
Bisous! Salut.